et à tous, et bienvenue dans cette table ronde digitale, dans cette nouvelle série en fait de 2025, que nous allons consacrer à l'IA. Ah, surprise, oui, l'IA, effectivement, c'est au cœur de toutes les discussions, que ce soit autour de la table en famille ou évidemment en entreprise. Et ce qu'on va essayer de faire par une série de tables rondes donc, cette année, principalement au premier semestre, mais je pense que ça va déborder, c'est d'essayer de comprendre comment l'IA peut concrètement aider les entreprises et puis un petit peu démystifier un petit peu l'apport de l'IA et surtout très concrètement expliquer comment on peut l'intégrer dans des processus, dans des tâches individuelles également. Et puis on va essayer de voir aussi, peut-être pas forcément très aujourd'hui particulièrement, quoique à une exception près, on va essayer de voir un petit peu comment ces IA sont intégrées de plus en plus fréquemment maintenant et nativement dans les applications justement qui motorisent ces processus métiers. Donc, premier sujet de l'année, évidemment, c'est le marketing. Hein. Le marketing, on a tous vu des partages sociaux, des commentaires sociaux qui étaient générés par des IA. Ça a été montré du doigt, voire parfois carrément décrié. Donc, on va essayer un petit peu de vous montrer concrètement comment on peut se servir de l'IA intelligemment, sans que ce soit trop visible. Après, faut pas être dupe non plus. Mais en tout cas, l'objet de cette série de tables rondes, c'est d'essayer de vous faire comprendre et d'illustrer par des cas concrets aussi tangibles que possible en quoi l'IA est intéressante pour vos organisations et pour vos entreprises et pour vos tâches personnelles au sein de ces entreprises. Donc, j'ai réuni 4 experts aujourd'hui, Xavier Polic, Frédéric Genvé, Raphaël Richard et Sylvain Montmory. Alors, sans plus attendre, je vais leur donner la parole pour qu'ils se présentent à tout un chacun. Voilà, allez, par exemple, Xavier, tu commences ?
Enchanté. Eh bien, écoutez, merci pour ton invitation. Je suis ravi de participer ce matin avec vous, vous partager un peu des cas concrets qu'on opère au quotidien avec nos clients. Donc moi, je suis le CEO d'une plateforme qui s'appelle GetQuanti, qui travaille dans le marketing B2B depuis déjà quasiment une dizaine d'années. Et j'interviens également parce que j'ai cofondé une nouvelle plateforme qui s'appelle Zenbaya avec Hervé Gonnet, qui se dédie justement à essayer d'implémenter des cas d'usage d'IA dans les entreprises. Donc on est pile dans le sujet et je vais vous parler d'un cas implémenté chez un de nos clients.
Ok, super. Merci beaucoup, Xavier. Fred, tout le monde te connaît, mais enfin bon, il faut quand même que tu te...
Oh non, tout le monde me connaît, hein. Même si je connais certaines personnes dans le chat. Hein. Salut Mickaël. Salut Canevet, donc je travaille chez Locan, qui est un éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de SAT. Et c'est vrai qu'on intègre l'IA chez nos clients, dans la partie centre de contact, avec l'analyse sémantique, le résumé des conversations, etc. Et je vous donnerai un petit retour d'expérience là-dessus. Et à titre perso, donc ça fait des années aussi que j'ai un blog qui s'appelle conseilmarketing.com et j'expérimente aussi à titre perso pas mal de petites technos et je vous ferai aussi mon retour d'expérience. Donc vous aurez à la fois le côté éditeur sur des grands comptes et mon côté à moi qui est plutôt pour un indépendant, donc la vision macro et micro.
Ouais, absolument. Je réponds juste à une question qui est posée dans le chat. Oui, bien sûr, le replay, en fait, c'est intéressant sur LinkedIn. C'est dès que le live est terminé, le display est disponible exactement au même endroit, même URL. Donc, vous pourrez vous connecter et en profiter en mode asynchrone. Raphaël, bonjour Raphaël. Raphaël, pour ceux qui s'intéressent à l'IA, t'ont certainement identifié sur LinkedIn notamment.
Ou en tout cas, ils vont le faire aujourd'hui. Voilà. Effectivement, je publie plusieurs fois par semaine des réflexions personnelles, des retours d'expérience sur l'IA, qui est un sujet auquel je m'intéresse depuis 1996. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, parce que ça fait un peu dinosaure. Et je ronge mon frein depuis cette époque, justement pour qu'il y ait des outils qui nous permettent d'automatiser, nous, les marketeurs, puisque je gère une agence de marketing digital qui s'appelle Neodia, qui a 20 ans. Qui nous permettent d'automatiser en fait ce que l'on fait. Alors, j'ai attendu pendant 15 ans, puis rien ne venait. Donc, du coup, on a développé une plateforme d'IA symbolique, donc les technos avant l'IA générative, avant le machine learning, il y a une dizaine d'années, pour automatiser en partie les audits et les recommandations, par exemple, de référencement que l'on fait, donc avec une techno complètement différente de ChatGPT, mais qui a des trous. Et puis, du coup, on intègre ChatGPT dedans, et puis j'anime pas mal de formations. On développe des applications au sein d'entreprises, pas compliquées, pas trop chères, mais opérationnelles, pour aider nos entreprises, alors soit PME, soit petit service dans une grande entreprise, à gagner du temps.
Ouais, complètement, complètement. Et puis, enfin, Sylvain Montmory. Bonjour Sylvain, ravi de t'accueillir aujourd'hui en table ronde. Tu nous dis ce que tu fais, Sylvain ?
Bonjour. Donc, depuis quelques mois, je suis formateur et consultant en marketing, avec ou sans IA. Donc, avant, j'ai une carrière de plus de 20 ans à des postes de direction marketing dans des grandes entreprises françaises et à l'international, dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le conseil, la santé, la formation également. Et j'ai publié un livre qui est l'IA au service du marketing chez Duno, où j'explique comment j'ai intégré l'IA dans mon métier de marketeur au quotidien, où j'ai regroupé plus de 100 interviews de professionnels, et on en retrouve 40 à l'intérieur du livre, que ce soit des marketeurs, des communicants, des philosophes, des artistes, des écrivains, voilà, dont un certain Frédéric, qui est aujourd'hui présent.
Ah, un certain Frédéric, tiens. Ok, super. Merci beaucoup. Et Sylvain, il a cette grosse expérience, donc il a interviewé beaucoup de monde, mais je pense qu'il jouera un petit peu le rôle d'avocat du diable parfois, hein, pour réfréner nos ardeurs autour de l'IA. Ok, eh bien, écoutez, on va commencer. Xavier, donc je vous ai promis des cas concrets. Xavier, tu travailles donc pour Zenbaya, tu en as dit deux mots un petit peu. Tu as commencé à travailler avec Dalkia. On vous mettra la vidéo du témoignage client, mais est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec Dalkia et comment il s'est approprié votre nouvelle plateforme?
Absolument. Alors donc c'est quasiment un des premiers cas que vous implémentez. En plus, dans un contexte plutôt grande entreprise, on va dire Dalkia, c'est la filiale énergie renouvelable d'EDF. Et en fait, on a été en contact avec une équipe marketing souvent réduite à peau de chagrin. Donc, en l'occurrence, c'est un responsable marketing, Romain, qu'on voit à l'écran, là, qui a témoigné, et qui, comme j'imagine 90% des équipes marketing, a parmi ses attributions le fait de réaliser un peu de veille stratégique sur ce qui se passe sur son marché. Donc, c'est un besoin qu'on va rencontrer à peu près partout. Et comme à peu près partout, c'est souvent la tâche qui vient, on va dire, niveau 2, niveau 3, qu'on fait un petit peu en perruque. Sauf que lui, il a une exigence supplémentaire, c'est que son boss lui a demandé d'écrire une newsletter pour une trentaine de directeurs opérationnels de EDF / Dalkia. Et donc, il a quand même une échéance tous les mois. Il sait qu'il doit, son stress de fin du mois, c'est tous les, on va dire, à deux jours de la fin du mois, il faut qu'il réalise une petite newsletter qu'il doit diffuser à ses directeurs. Et donc, sa routine à lui, c'est tous les jours de faire un petit peu de veille sur des sources qu'il avait préalablement identifiées, sur les gens qui parlent un peu d'énergie renouvelable, de se les garder un petit peu de côté. Et puis, deux jours avant la fin du mois, eh ben, il faut qu'il se les retravaille, il les lise un à un, il en extrait les choses qui lui paraissent intéressantes, il en fasse une synthèse, un document Word qu'il va envoyer. Tout ça, vous imaginez que c'est… et chronophage, et évidemment, l'IA est venue à son secours. C'est un des cas d'usage les plus, on va dire, évidents, et surtout qu'on peut implémenter très facilement. Donc, ce qu'on a fait pour lui, je ne sais pas si tu peux montrer quelques planches.
Ouais.
Globalement,
je vous montre, fondamentalement… Et je vous partage également le cas d'Alkia, là, qui est une petite vidéo YouTube que vous pourrez aller voir après le live. Hein. Soyez pas dissipés. je vous partage quelques planches, effectivement.
Donc, qu'est-ce que peut faire l'IA pour lui? Qu'est-ce qu'on lui a mis à disposition? Ben, la première chose, c'est qu'effectivement, on lui a dit les 30 minutes par jour que tu consacres à essayer d'aller voir les articles qui sont parus. Alors, il est abonné à des newsletters email, ou alors de temps en temps, il va aller carrément sur, sur Google lui-même. Ben, il se trouve que maintenant, avec l'IA, on peut d'une part lui mettre à disposition des outils de veille un peu plus élaborés. Alors, depuis qu'on a collaboré avec lui, il y a Perplexity qui est arrivé. J'imagine que vous avez commencé à l'utiliser. Perplexity, on peut l'intégrer dans une plateforme. Donc, nous, c'est typiquement ce qu'on fait. Donc, on va envoyer, je sais pas si on voit à l'écran, mais en gros, on lui a demandé d'identifier les 4 ou 5 thèmes sur lesquels il voulait être alerté. Également, l'audience à laquelle il s'adressait pour que quand on va interroger l'IA, les résumés qu'on va faire pour lui s'adressent bien à la cible visée. Et puis derrière, on va faire travailler par exemple à Perplexity pour régulièrement trouver des posts sur cette thématique. Ou, parce que je crois qu'on en parlera un peu plus longuement derrière, Perplexity ne nous donne qu'une partie de ce qui se passe. On a aussi la possibilité d'interroger Google en faisant travailler les réponses par de l'IA. Bref, en gros, on devient un petit centre d'alerte sympathique pour Romain, pour lui donner plus facilement accès à ce qui se passe. Ensuite, son job, ça va être d'aller voir ces différents contenus. Et là, l'IA, notamment à travers une extension Chrome que lui a mis à disposition, lui permet, simplement en allant visiter l'article qui l'intéresse, de disposer d'un résumé, des faits marquants, des chiffres clés, en tout cas, toute la matière dont il va avoir besoin en fin de process pour réaliser sa newsletter. Donc là, il estime qu'on lui fait gagner quasiment 75% de son temps quotidien, enfin de la part du temps qu'il consacre, simplement parce que l'IA va venir en quelques clics analyser les contenus qui l'intéressent, en faire un résumé, et derrière, il a la possibilité de créer, on va dire, un doc où il se le fait à la main, on va dire, c'est ça qui est génial avec l'IA, on peut passer moins de temps nous-mêmes à faire de la mise en forme, il fait un log avec tous les trucs intéressants qu'il a vus, et à la fin du mois, il va réuploader ce document qui constitue, on va dire, sa matière déjà un petit peu digérée par l'IA au fil de l'eau. Et ça va être là, tu peux avancer un petit peu, j'ai mis quelques
points. Ouais, ouais.
En fait, simplement, et ça a l'air de rien, mais ça va lui faire gagner quasiment 2 jours en fin de... Ça lui fait gagner 2 jours en fin de mois. On va demander à l'IA de... c'est l'extension qui travaille. Voilà. Et donc ici, là, vous voyez des rubriques en haut à droite. Il nous a demandé de classifier, en fait, sa newsletter par thème. Quelles sont les actualités juridiques, technologiques, par des thématiques que lui a définies. Et on va demander à l'IA de classer, on va dire, cet ensemble d'articles qui avaient été pré-travaillés pour construire en un clic, si on veut dire, vraiment le déroulé complet de sa newsletter avec la mise en avant des éléments clés, en gardant les références des liens pour ses auditeurs, un petit résumé en fin de parcours. Et tout ça, finalement, d'ailleurs, il peut le télécharger en PDF. Il a fait 90% de son travail de veille. Il peut se concentrer éventuellement pour en supprimer un ou deux, refaire travailler la machine. Et donc, c'est vraiment le type d'aide qu'aujourd'hui une IA est capable de proposer sur du contenu qui n'est pas sensible, puisque c'est des contenus qu'on va chercher à l'extérieur. Donc, c'est très facile à implémenter aujourd'hui dans les entreprises. Il n'y a pas encore les sujets de confidentialité, privacy, dont on va parler certainement par la suite. Et donc, c'est vraiment un cas d'usage que je recommande d'implémenter parce que si vous aviez la flemme de faire cette fameuse newsletter parce que vous n'avez pas le temps, ben maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez des outils qui vous font 80% du job. Au passage, Dalka, c'est une grande société et donc, il peut lui faire traduire cette même newsletter dans 30 langues s'il souhaite. Donc, il gagne en fait une capacité en plus de communication. On lui a créé un petit avatar permettant de présenter de manière sympathique en vidéo sa newsletter. Bref, vraiment, on augmente, on réduit son temps, on augmente la qualité de ce qu'il produit. Et c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, les assistants IA peuvent apporter aux entreprises. Et je vous ai mis effectivement en conclusion. On a fait un numéro spécial là, d'une espèce de livre blanc, un magazine qu'on sort tous les 6 mois, que vous pourrez, c'est gratuit évidemment, télécharger. On a d'autres cas d'usage qu'on décrit dans le mag. Et c'est vraiment pour nous un vrai changement qui est en train de s'opérer et on est ravis de pouvoir contribuer avec nos moyens à cette évolution.
Ouais, moi je trouve que c'est un super exemple parce que quand on parle marketing, on pense communication sur les réseaux, etc. Moi je trouve que c'est un super exemple très très concret, très opérationnel de la façon dont on peut implémenter l'IA en entreprise. Voilà, c'est le document dont parlait Xavier pour terminer et qui concerne la fonction marketing au sens un peu large du terme, j'allais dire un peu noble, en tout cas sur les autres aspects marketing, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça vous inspire, le cas d'usage là, que Xavier vient de décrire les uns et les autres? C'est pas Raphaël, toi, tu es habitué à ce genre d'outils, ce genre de processus?
Moi, je trouve ça intéressant, et par rapport aux multiples promesses qu'on a fait faire à l'IA générative et qui ne sont pas toutes tenues, faut être honnête. Tout ce qui est travail en fait sur l'automatisation entre guillemets du traitement du langage, des textes, remise en forme, etc. Là-dessus, elle est bonne. Donc du coup, c'est pas étonnant en fait. On voit ce type d'application dans pas mal d'entreprises qui ont essayé tout un tas de choses, mais ça marche. Donc du coup, ça me parle plutôt bien. Puis en plus faire de la curation, de la revue de presse, de la remise en page, comme ça, c'est pas forcément le travail qu'on a envie de faire tous les mois ou toutes les semaines. Et puis du coup, bah, s'il y a un peu faire un truc qui n'est pas super sexy à notre place et nous faire gagner du temps, je vote pour. Ça me parle.
Tu votes pour. Ok. Avant que je te redonne la parole pour que tu présentes ton cas, Fred, ça t'inspire quoi
vraiment intéressant parce que ça te permet de… Surtout, c'est l'aspect gain de temps. Je mettrais juste le petit bémol, c'est se dire… Oui, il faut cette newsletter IA, mais il faut toujours la compléter par vraiment des trucs humains, parce qu'autrement, c'est vrai que c'est cet aspect valeur ajoutée. Si ça te donne plus de volume sans avoir plus de valeur, le tout de l'humain, justement, c'est d'apporter ce petit filtre-là, de dire ah ouais, ça, il m'a suggéré, et finalement, c'est peut-être, il y a d'autres choses que moi, je veux mettre en avant qui sont plus intéressantes. Donc, toujours rajouter cette valeur ajoutée. Ouais. L'humain est aidé par la technologie et pas remplacé là, dans ces cas-là. Autrement, si tu fais trop automatisé, je pense que cette newsletter sera pas lue au final. Si tu apportes ta valeur ajoutée, là, les gens vont dire waouh, c'est vachement intéressant, quoi. Et là, tu fais vraiment quelque chose. Ouais.
Complètement. Mais effectivement, il y a Xavier l'a pas forcément montré, mais je pense qu'il l'a dit. Il y a évidemment la possibilité d'édition directement via la plateforme Zenmaya, parce que l'appropriation effectivement de ce que peut mâcher comme travail avec l'IA est super important, quelle que soit la dimension qu'on a.
Mais c'est vrai que juste pour compléter, c'est vrai que j'ai testé un autre IA qui s'appelle GenSpark, qui est pas mal en fait, qui est pas mal sur la promesse en fait. C'est un truc, c'est un espèce de métamoteur. Et en fait, il va te rechercher dans des sources des informations. Et c'est vrai que la promesse est belle parce qu'il dit, ouais, je vais analyser 100 articles de blog ou 100 sites internet et je vais te faire un résumé. Et moi, ce que je constate, c'est que ce résumé comme reste très générique, assez peu, avec assez peu de valeur ajoutée. Par contre, là où il est très fort, c'est sélectionner les bonnes sources. Et dans la liste, tu trouves quand même des trucs assez vraiment intéressants. Donc, voilà, c'est toujours se dire, l'IA fait une partie du travail, mais l'humain va rajouter après ce qui est vraiment…
Le tri, oui. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que, je vous ai montré le résumé, mais pour que l'IA fonctionne bien à la fin, on lui fait extraire pas seulement le résumé, mais les mots-clés, les faits marquants, les chiffres. En fait, l'IA est aussi capable d'extraire certaines informations qu'on souhaite lui trouver dans les documents. Et ça fait partie, comme tu disais Frédéric, du réglage humain, du contrôle et de la possibilité de construire en fait sa newsletter avec un certain parti pris ou en insistant sur tel ou tel élément. Absolument.
Super. Oui, Sylvain, je te donne la parole.
Donc, pour aller dans la continuité un peu de Frédéric, aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT Search qui est allé tuer Google ou Perplexity. Quand même, trois points quand même importants à connaître quand vous voulez utiliser l'IA pour votre veille, pour de la recherche d'informations. Le premier point aujourd'hui, s'il y a 67% des sites d'informations fiables qui refusent que les IA viennent pomper leur contenu. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les IA génératives sont obligées d'aller dans des sites moins fiables, de second niveau. Des sites où la véracité de l'information n'est pas toujours prioritaire. Donc, ils sont source de désinformation, d'infox, utilisez le mot que vous voulez. Donc, ça, c'est un des premiers points. Donc, quand vous allez utiliser l'IA générative, il va vous faire remonter uniquement certaines sources et ce n'est pas toujours les meilleures sources. Deuxième point, c'est quand une IA générative va faire des hallucinations. Ça, on en est tous conscients. Donc, ça, c'est lié à son fonctionnement. Donc, il calcule. il fait des probabilités liées à des moyennes, souvent qui sont plus ou moins moyennasses. Et par rapport à ça, il va générer des erreurs. Donc, par exemple, une fois sur deux, sur une réponse factuelle, il va vous donner une mauvaise réponse. Alors, d'où vient ce chiffre? Il vient de OpenAI lui-même, qui a fait un benchmark sur son propre outil, sur Claude, pour mesurer l'efficacité des réponses de son outil. Au mieux, c'est 50% d'erreurs. Sur ChatGPT 4o, qui est l'outil le plus utilisé, aujourd'hui, c'est 60% d'erreurs. Donc, il faut être conscient vraiment de ça quand on utilise ce type d'outil, parce que en plus d'aller chercher des informations sur des sites de moyenne qualité ou pas fiables, il risque en plus de régénérer des hallucinations dessus. Mmh. En parlant des sites non fiables, par exemple, ça, c'est des chiffres qui viennent de NewGuards. Vous avez à peu près 1200 sites qui sont 100% automatisés aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle humain qui est fait dessus. Et leur job, c'est uniquement de générer du contenu pour plaire à des algorithmes et pour pouvoir générer derrière des profits publicitaires. Dans ces sites-là, c'est vraiment des usines à fake news. Et à l'intérieur, on retrouve également des sites de propagande qui viennent par exemple de la Russie, qui se font passer pour des sites ukrainiens pour faire passer leur propagande. Donc, il faut être vraiment vigilant de tout ça au moment où on utilise ces outils-là et où on souhaite déléguer sa recherche d'informations. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être source aussi de désinformation si vous n'êtes pas du tout vigilant. Enfin, le dernier point à connaître, c'est au niveau des sources. Aujourd'hui, ChatGPT Search, 3 fois sur 4, il va vous mettre une mauvaise source en face de son information. Ou il va vous mettre une source qui ne correspond pas du tout. Ou même des fois, il va vous créer sa propre source qui n'existe pas du tout. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait le test. Je voulais faire une revue de presse sur Lucia pour savoir ce que pensait de l'échec de Lucie au niveau de la presse étrangère. Donc, il ne m'a sorti pas grand-chose. Donc, j'ai mis recherche par rapport à quelques sites que je connais bien, comme le Washington Post, etc. Et là, il m'a dit oui, il y a eu bien des articles. Voilà ce qu'il dit. Et je lui dis, ajoute-moi le lien. Il m'ajoute le lien. Parfait. Donc, j'aurais pu faire un copier-coller et le publier comme ça. Et en cliquant, évidemment, le lien était faux. Je suis allé rechercher sur les sites du Washington Post et sur 3 autres sites. Ils n'avaient pas du tout fait d'article sur Lucia. Donc, ça, c'est une preuve concrète que si on n'est pas vigilant, on peut vraiment propager des grosses bêtises. Quoi.
Donc, il t'avait mis un lien du site du Washington Post qui n'était pas un vrai lien ?
Qui n'existait pas. Pourquoi ? Parce que dans mon prompt, je l'ai un peu trop orienté. Je lui ai dit, va bien chercher parce que je cherche les articles qui parlent de ça.
C'est retort, là. Ouais.
Mmh. Et vu qu'il y a lui, il est là, c'est quoi son job ? C'est de vous donner toujours une réponse. Et de préférence, une réponse qui va dans le sens du scroll, donc qui va vous plaire. Donc, lui, c'est son job. Donc, si derrière, vous n'êtes pas du tout vigilant, vous générez des erreurs. Perplexity est un peu plus fiable sur les sources. Il se trompe à peu près une fois sur trois, d'après les dernières études. Par contre, un chiffre qui est un peu plus inquiétant, c'est les utilisateurs de Perplexity, aujourd'hui, ils vérifient 6 fois moins les sources d'informations qui proviennent de Perplexity que quand ils le font avec Google. C'est-à-dire qu'on perd cette vigilance humaine qu'on avait avant sur Google.
Ah oui, d'accord.
On est amené à faire beaucoup plus d'erreurs vu qu'on est beaucoup moins vigilant.
Il y a un autre élément, en fait, par rapport à Perplexity, je l'ai montré dans les screenshots. En fait, c'est pour ça que nous, on va fournir différentes sources. C'est qu'en fait, Perplexity va faire des choix aussi. Parce que c'est aussi ce qu'on lui demande, puisque c'est un LLM qui est censé un petit peu trier. Et du coup, il va te donner une certaine vision. Et quand on met bout à bout sur le même thème ce que sort Google et ce que sort Perplexity vraiment filtre beaucoup. Donc, il faut aussi savoir qu'effectivement, on regarde à travers le prisme d'un robot. Et donc, il y a aussi ce biais-là, en fait, hein, c'est de ne pas avoir une vision.
Ok, super. Il faut qu'on avance, parce que sinon, on va pas tenir le temps.
Ils sont là pour donner des réponses probables. Et des réponses probables, ce ne sont pas des réponses exactes, fiables. Mmh. Donc, juste être conscient de ça. Eux, ils sont là pour générer des moyennes, ce que je redis, mais moyennasses. Et un dernier point, moi, dans mon métier, la veille, c'est essentiel. Donc, il est hors de question que je délègue ce type de prestation à une IA générative, parce que pour moi, c'est la base d'un métier d'un marketeur, d'aller rechercher de l'information, de se nourrir de l'information. Donc, oui, aujourd'hui, moi, j'utilise l'IA pour m'aider dans ma veille, pour compiler, pour synthétiser, pour même des fois rédiger. Mais par contre, tout ce qui est la lecture, la recherche d'information, ça, je me la garde précieusement pour mes neurones, parce que ça fait partie de la valeur ajoutée pour moi du marketeur.
Ouais, c'est clair. Merci Sylvain. Je vous avais dit Sylvain, il a un peu C'est l'avocat du diable et notre système parasympathique de l'IA. Raphaël, est-ce que tu peux nous parler d'un cas concret? Oui. que tu as mis en place? Alors je pense que ça commence à être associé à une offre de service que, oui, tu proposes, oui. Mais le cas en lui-même est très intéressant, je trouve.
Dis-moi Thierry, j'ai mal fait mes devoirs, je n'ai pas intégré mes slides dans la présentation. Est-ce que je...
Ah oui, alors attends, je vais essayer d'y remédier. Vas-y, je te laisse en parler.
Non, est-ce que je peux partager mon écran?
Faut non, c'est plus compliqué. Je vais essayer de récupérer tes planches et puis les intégrer au fur et à mesure. Vas-y, je te laisse commencer.
D'accord. Alors attends, c'est pas grave parce que finalement je te les ai pas envoyés, mais je vais expliquer. Je vais essayer d'être concret. En gros, nous on a testé l'IA, puisque je vous disais qu'on s'y intéresse depuis un moment, dans tout un tas de configurations. Puis on voit là où le niveau de qualité en fait qui est restitué en fait correspond à ce qu'on attend, et puis dans d'autres cas, les autres cas, bah, pour le coup, on les écarte. Donc, par exemple, automatiser, je ne sais pas, les posts LinkedIn. J'ai un peu de mal parce que ça correspond pas, entre guillemets, à ma patte, hein, parce que copier le style de Raphaël Richard, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est particulier, le faire copier par un,
je confirme, c'est IA qui fait les posts de Raphaël. Hein. Suivez Raphaël, la qualité de sa production, c'est pas de l'IA. Hein.
Et au-delà de la qualité, du niveau de qualité, il y a le fait que bah, c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Donc, pourtant, on a essayé de les forcer, les LLM. En revanche, il y a parmi les sujets sur lesquels on bosse depuis un moment et qui marche pas mal, c'est sur lequel on a développé une petite expertise, il y a la production de documents longs. Vous devez avoir remarqué que quand vous demandez en fait, un document de 10 pages via un prompt simple à ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Mistral, etc., bah, il n'y arrivait pas. Et si jamais en fait, on veut produire un document de 20 pages, il faut avoir une stratégie, entre guillemets, et lui dire, voilà, alors dans un premier temps, tu vas faire ça, et puis après, tu vas faire ça. Donc, en l'occurrence, une stratégie simple, ça consiste à lui dire, bon, voilà, moi, ce que je veux, à la fin, c'est rédiger tel document, une formation, un tuto, un livre, et puis je vais vous parler du vrai sujet, un livre blanc. Donc, dans un premier temps, tu vas me proposer en fait le plan, sachant que le cahier des charges en fait par rapport au livre blanc ou au tuto ou à la formation, peu importe, c'est ça et ça et ça. Donc, tu dois tenir compte de tous ces éléments. Tu vas me proposer le plan, et si jamais je te valide le plan, bah, tu vas écrire la première partie, et puis si jamais je te valide la première partie, tu vas écrire la deuxième partie et la troisième partie, etc. Ça, on a commencé à tester cette technique-là. Donc, ça peut vous intéresser parce que c'est du concret et c'est utilisable directement dans les versions grand public de ces LLM, ceux que vous connaissez. Et on a commencé à tester ça sur ChatGPT, je crois de mémoire, en avril ou en mars 2022. Et ce que je voulais à l'époque, c'était lui faire écrire un livre blanc sur les LLM, donc du coup sur l'intelligence artificielle. Et le premier qui m'a sorti, en fait, m'a intéressé parce qu'il y arrivait. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de remplissage. Et il avait tendance à oublier ce qu'il m'avait raconté, en fait, au début du livre blanc. Et donc, du coup, il y avait des répétitions. Même s'il suivait le plan qu'il m'avait annoncé, en fait, au départ, dans la troisième partie, sous-partie de la cinquième partie, il répétait un peu ce qu'il avait dit auparavant. Et donc, du coup, c'était pas satisfaisant. Sauf que vous n'êtes pas censé... être passé à côté du fait que toutes les semaines, maintenant, il y a un nouveau LLM. La semaine dernière, c'était DeepSeek R1 et Queen. Et puis, la semaine d'avant, c'était DeepSeek R1 qui bat et qui est beaucoup plus performant que tous les autres. Sauf qu'en fait, ils sont plus performants sur des benchmarks qui correspondent très techniques, qui ne correspondent pas, en fait, qui correspondent pas à nous. Donc, du coup, il faut s'en méfier. Mais ceci étant, les LLM, en fait, ont quand même vachement progressé. En 2 ans et demi, 3 ans. Même depuis, si on remonte à GPT-2 en 2020, il y a eu une progression. Et là où ils ont progressé aussi, c'est sur la taille de la fenêtre de contexte. Je vous expliquais que lors de nos premiers essais de rédaction de livres blancs il y a 2 ans, on avait un problème, c'est qu'il oubliait ce qu'il nous avait déjà raconté au départ. Et la fenêtre, la taille de la fenêtre de contexte, c'est le volume d'informations dont il tient compte pour rédiger ce qu'on lui demande de rédiger. Du coup, ça peut être le PDF que vous lui avez envoyé ou ça peut être tout ce qu'il vous a raconté depuis le départ ou tout ce qu'il a écrit depuis le départ. Et maintenant, nous, on a trouvé en fait des modèles du coup qui permettent de rédiger des vrais livres blancs de A à Z avec un niveau de qualité qui correspond à quelque chose qu'on puisse exploiter derrière. Donc, exploiter derrière, ça veut dire que soit dans le meilleur des cas, ça arrive pas forcément souvent, il y a quasiment rien à retoucher, mais évidemment, il faut tout relire, mais il y a quasiment rien à retoucher. Soit il nous a fait gagner suffisamment de temps pour que ce soit intéressant. Et puis après, nous, on va corriger les bêtises qu'il a racontées, parce qu'ils en racontent de temps en temps. Soit on va ajouter des témoignages clients, des cas d'études qui nous sont propres et qui n'ont pas pu inventer, puisque ça, c'est nous. Et puis après, il faut vendre sa sauce. Donc, du coup, la première page, on présente la boîte, le call to action à la fin, et puis mise en avant en fait de nos produits qu'il peut pas inventer en fait ça on peut pas trop compter sur. Et puis du coup le livre blanc vous allez me dire alors ça c'est pour faire rédiger des documents marketing du moment qu'on n'exige pas qu'il ait notre mais ça tombe bien parce que un livre blanc normalement ce qu'on lui demande c'est d'être c'est neutre et puis après vous pouvez ajouter des parties où vous prenez position et du coup ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, un livre blanc, ça sert à quoi? Ça sert notamment à résoudre un des problèmes qu'on a tous si on fait des campagnes Google Ads B2B, c'est le prix du clic et du coup, le coût du prix du clic, le coût du lead. Si vous achetez en fait un clic à 2-3 euros et c'est pas inhabituel en campagne Google Ads B2B, vous voyez que vous avez un taux
voire plus.
De 1 ou 2%, vous avez tout de suite un lead qui vous coûte 40, 50, des fois 100, 200 euros. Et si, pourquoi? Parce qu'on renvoie les gens sur une landing page, et même si elle est bien faite, les gens n'ont pas forcément envie toujours de vous contacter, de vous demander des informations commerciales. Mais si vous renvoyez vos campagnes Google Ads sur une landing page où vous proposez de télécharger gratuitement un document qui va être utile aux utilisateurs, ou en tout cas dont la valeur perçue est importante, ils vont avoir tendance à se laisser tenter et à télécharger le document que vous leur proposez. Et si ça s'appelle livre blanc, du coup, c'est un peu plus, on va dire, tentant qu'un autre document, un tuto, un guide, etc. Et évidemment, il ne faut pas se planter, parce que si jamais la promesse derrière, et j'ai vu passer un poste, le sujet du livre blanc, mais sur les promesses déçues de tous ceux qui, sur LinkedIn, vous proposent de télécharger des trucs mythiques qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Puis à la fin, quand vous ouvrez, c'est un petit peu, voire très décevant. Moi, mon expérience, c'est que dans 80% des cas, quand je télécharge un truc sur LinkedIn, suite à un post LinkedIn, c'est nul. Si jamais vous faites une...
De la promotion commerciale, il y a deux, trois informations intéressantes, puis il y a noyé dans l'autopromotion.
Voilà, et en plus, exactement. Il y en a, moi j'ai téléchargé une automatisation MEC, qui est un des outils qui est à la mode en ce moment, justement pour faire des revues de presse. C'était pitoyable le résultat de ce que ça, de ce que ça produit. Donc, du coup, là, le livre blanc, ça peut être un outil, en fait, c'est très, très bête parce que c'est un vieux truc et on ne pense pas forcément au fait que l'IA peut nous aider à produire. C'est un vieil outil, le livre blanc. Et si vous le connectez à une campagne Google Ads ou, je ne sais pas, Meta ou LinkedIn, par exemple, vous aurez normalement un taux de conversion qui sera supérieur. Donc, quand je dis supérieur, c'est franchement supérieur à une campagne classique. Normalement, c'est tellement souvent à lire un livre blanc que ça va être demandé uniquement par des gens qui sont vraiment dans la cible. Et en plus, si ils ont tapé un mot spécifique, agence marketing, agence IA, agence tout ce qu'on veut, normalement, ils sont déjà par définition dans la cible. Et du coup, ça peut permettre d'abaisser le taux de, d'augmenter le taux de conversion et d'abaisser le coût, des clients. Donc, c'est un truc qui est très, très bête. Mais par rapport à toutes les bêtises que j'ai vues passer sur l'utilisation de l'IA, de ChatGPT en général, pour optimiser vos campagnes Google Ads, ben, j'ai jamais vu passer ça. On nous dit que ça va nous générer des annonces, des idées de mots-clés, etc. Ça, ça marche modérément, on va dire, parce que je suis gentil. Mais en revanche, un livre blanc, un bonus, un vrai bonus pour un peu doper, augmenter, si ce n'est doper, au moins augmenter les perfs, bah, du coup, ça, en fait, on n'y a pas forcément pensé. Et d'autant plus que c'est un peu compliqué à la base. Donc, moi, je vous ai donné une technique simple, hein, tout à l'heure. C'est vous lui demandez, vous lui donnez le contexte dans un premier point. Vous lui dites, voilà comment on va procéder. Tu vas me donner le plan. Si je valide le plan, tu vas me rédiger la première partie, la deuxième partie, etc. Et à la fin, bah, vous pouvez vous retrouver avec un livre blanc qui tient le coup. Alors,
plus... processus itératif.
Pardon ? Oui, voilà, exactement.
C'est un processus itératif.
Ouais. Et voilà. Alors ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Et puis, qui prend un peu de temps, qui demande un peu de maîtrise du prompting, mais ce n'est pas hors de portée. Et puis, vous avez la possibilité, alors ça, c'est la petite page de pub. Donc, du coup, c'est ce que tu as mis, je crois, excuse-moi, j'ai sur le,
ouais,
sur le, comment dire, sur le slide. Ouais. Ouais. Si vous allez sur monlivreblanc.fr, vous avez un outil
pendant
la période de promo pour 99€. Vous permet en fait d'avoir un livre blanc livré en, allez hop, on va dire 15 minutes. Et il y a très peu de paramétrage à faire. Parce que sinon, j'ai horreur, moi, quand on me vend un service IA, c'est qu'on me demande de cocher tout un tas de cases, de paramétrer l'outil. Et on s'est débrouillé pour que, entre le modèle d'IA qu'on a choisi, donc on en a testé beaucoup, 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 et l'enchaînement de prompts qu'on va adresser via l'API à ce modèle. À la fin, le résultat à partir d'un titre de livre blanc précis, soit quasiment, quand je dis toujours, c'est qu'on, là, j'ai généré une cinquantaine de livres blancs et je ne l'ai pas pris en défaut, mais c'est possible. Et en particulier, en revanche, dans un cas, c'est quand on demande à notre outil de générer un livre blanc sur un sujet qui n'est pas le sujet d'un livre blanc. Donc, par exemple, vu passer comment gagner à tel jeu en ligne. Ça, c'est pas notre outil est pas fait pour ça. Et idem, il y a d'autres livres blancs qu'on voit passer des fois dans la presse. Ce sont les livres blancs politiques dont l'objectif est d'influencer l'opinion. Donc, ils sont très utiles, très anglais dans leur traitement. Et ça, évidemment, notre outil, il ne sait pas faire ça. En tout cas, bon, là, c'est ma petite page de pub à la fin.
Dites-nous en commentaire si cet usage de l'IA pour produire des livres blancs, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Ce sera intéressant.
Ben, Thierry.
J'allais te donner la parole, Fred. Juste une chose. Après, effectivement, ce que tu évoques, Raphaël, évidemment, il n'y a pas de mise en forme. Après, il faut faire une mise en forme, une édition du document pour qu'il soit quand même avenant, la forme a quand même une certaine importance. Il y a des vous connaissez des outils de mise en forme? Gamma fait ça, hein, Xavier, hein, je crois, hein, ce genre de choses, notamment. Il y en a d'autres peut-être, Fred.
Oui, Gamma est intéressant. On va dire que sa restitution, c'est plutôt, on va dire, un mini-site ou des slides, parce que ça va être, mais c'est très optimisé.
Ouais.
Par contre, c'est puissant et c'est rapide. Ça va pas.
Alors, Thierry,
c'est puissant.
Ouais. Complexe.
Ouais. Mais c'est Thierry. Intéressant.
Oui.
Quand on a eu, on va dire, fait le gros du boulot, à savoir faire en sorte qu'on livre un texte qui soit, entre guillemets, à la hauteur de la promesse, dans les deux dernières semaines, justement, on s'est attelé au problème de la mise en forme. Et donc,
ah bon,
du coup,
d'accord.
On le livre avec une mise en forme qui est correcte et professionnelle. Donc, c'est dommage parce que je ne peux pas le montrer là, mais pour le coup, en fait… Voilà. Et après, l'alternative, donc on livre aussi…
On enverra le lien, on partagera postérieurement.
Exactement. L'alternative, c'est d'acheter un template, puisque le document, il est livré au format Word, donc on peut faire du copier-coller assez facilement. Tu achètes un template sur Internet et il y en a plein où tu fais travailler un infographiste et tu remets en page toi-même. Mais on a résolu, on a apporté une réponse à ça parce qu'effectivement, c'est un sujet, parce que ça peut prendre pas mal de temps.
Vous avez été jusque-là. Bien sûr. Fred, je te donne la parole et tu vas enchaîner.
Rapide.
C'est vrai qu'on a tellement de choses à voir et à discuter.
Ouais. Je te donnerai juste une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un auteur de bouquins, mais bouquins papier classiques. Et donc, il était en train de mettre à jour un de ses livres. Et puis, il me disait, ouais, mais tu sais, avec l'IA, maintenant, la mise à jour d'un chapitre bah, ça me prend 15 minutes alors qu'avant, ça me prenait 2 heures. J'ai dit, waouh, tu as dû gagner vachement de temps alors. Il m'a dit non, parce que je mets toujours 2 heures à écrire mon chapitre, sauf que l'IA me fait tout le début et c'est moi qui rajoute les cas d'école, les ex-vie d'experts, etc. Donc finalement, c'est le même temps, mais c'est plus de valeur. Voilà.
D'accord, top, top, intéressant. Ok Fred, bah, je crois que tu as deux, trois petits exemples à partager, avec nous en mode rapide. Ouais, ouais, je vais faire
donc en fait, défiler moi, ça. Ce que je vous ai proposé, c'est plutôt des petits cas pratiques avec soit, comme je le disais, des choses qui sont à mon niveau, soit au niveau d'Eloquent en tant que société éditeur de logiciel. Donc le premier que je voulais partager, c'est un truc que, bah, en fait, qui était compliqué à faire et qui coûtait de l'argent, c'est la sectorisation. Bah, vous savez comme moi, depuis un petit moment, bah, y a une saturation des audiences sur les contenus, sur les webinaires, même le livre blanc, comme on le dit. Hein. Il faut aller vraiment beaucoup plus précis. Tu ne peux plus faire un livre blanc sur l'IA, mais tu fais un livre blanc sur l'IA dans l'industrie, dans le service, dans l'assurance, etc. Et donc, en fait, pour ça, en fait, c'est important d'avoir des messages qui sont beaucoup plus personnalisés. Et donc, nous, dans notre CRM, on utilise Salesforce, on avait comme objectif de dire, mais il faut absolument qu'on sectorise nos communications, qu'on envoie des emails beaucoup plus dédiés, beaucoup plus précis pour des matinales, etc. Donc, on s'était dit, bah, tiens, ce qu'on va faire, l'enrichissement avec une société, on va prendre les numéros SIRET, machin, tout ça. Puis on se disait, ça va être compliqué parce qu'il faut comme sérétiser une partie, il faut faire du rapprochement, du machin. Voilà, ça me paraissait compliqué. Puis je me suis dit, merde, on va essayer un peu l'IA. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai benchmarké à l'époque ChatGPT et Mistral. Et je me suis dit, bah tiens, on va voir s'il arrive à segmenter. Surtout que nous, on voulait avoir une segmentation, pas en code NAF, mais une segmentation avec des secteurs. Tu vois, ici, là, on a finance assurance, finance banque, finance investissement, machin, etc. Donc, pas des codes NAF. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'abord à ChatGPT, voilà, voici le nom des boîtes, donc les noms des sociétés. Dis-moi, en fait, à quoi ils correspondent comme secteur avec cette liste-là. Et c'est vrai que ChatGPT a fonctionné sur, allez, on va dire, sur 1000 boîtes, il t'en trouve à peu près 250. Il dit, ah, celle-là, je les trouve. C'est vrai que c'est très bien fait, mais il n'y avait que 250. Je dis, merde, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, j'ai testé Mistral, donc la solution française d'IA, et lui, il te fait la totalité. Alors, avec un taux de réussite d'à peu près de 90-95%, après, tu fais quand même une petite review rapide, mais ça te permet donc de sectoriser l'intégralité de ta base en quelques minutes. Si jamais après tu veux, tu peux même le faire si tu n'as pas les sociétés, tu peux prendre les noms de domaine, si tu n'as pas d'email bien sûr, et tu prends ces noms de domaine là et tu peux aussi les dire, bah, tiens, dis-moi quel secteur d'activité c'est, et voilà. Et après tu l'intègres dans ton CRM, et ça, tu vois, ça m'a pris, on va dire, allez, 2 heures, parce qu'il faut quand même, comme le disait tout à l'heure Raphaël, il y a un tampon de mémoire qui est limité, donc tu ne peux pas lui balancer d'un seul coup 50 000 boîtes. Mais vraiment, c'est vraiment facile et simple à faire et ça permet d'avoir des communications beaucoup plus pertinentes. Donc ça, c'est le premier cas que je voulais présenter. Le deuxième, c'est un cas qui est un peu plus, grand public. C'est celui sur la relation client. Donc, en fait, la relation client, comme je le disais précédemment, le but, c'est d'aller à la fois faire gagner du temps aux agents du centre de contact et en même temps, pas nuire à l'expérience client. Parce qu'on le voit bien, l'IA, en fait, c'est surtout fait pour les entreprises qui veulent gagner en productivité, mais ce n'est pas toujours pensé pour le client en face. Par exemple, les chatbots et callbots, tu vois, c'est vraiment ce qui est le plus à la mode. Mais dans les canaux de communication, le callbot, c'est celui qui a le plus d'insatisfaction. Le téléphone, c'est 90% à peu près de satisfaction. Le callbot, c'est 52% ou 54%. Donc, c'est-à-dire que plus tu fais du bot, mais tu automatises des choses, mais tu génères de l'insatisfaction. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser l'IA pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Un premier usage, là, ici, c'est l'analyse sémantique et le résumé de conversation. Quand tu es au centre de contact, en fait, un appel, ça dure entre 1 et 2 minutes. Et après, tu as grosso modo 1 minute post-traitement. Et dans le post-traitement, qu'est-ce qu'il fait? L'agent, il fait un résumé, puis il fait une petite action ou il envoie un mail ou un truc comme ça. Et bien, en fait, le but, c'est d'aller réduire ce post-traitement sans pour autant nuire à la qualité. Et la solution, là, c'est tout simplement de faire un résumé de conversation. Donc, tu prends la transcript exacte, tu fais un résumé de conversation, tu l'envoies dans le résumé et l'agent, il gagne du temps. Grosso modo, il peut gagner 15, 20, 30 secondes sur le résumé. Il a toutes les actions, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. Et ça lui fait gagner du temps à lui, mais ça permet aussi de gagner du temps dans l'analyse derrière, parce que tu as une nouvelle richesse que tu ne pouvais pas avoir auparavant, c'est la transcription intégrale. Et là, en fait, c'est aller rechercher l'excellence opérationnelle. Parce qu'en fait, la qualité, la satisfaction, tu l'as déjà. Post-appel, généralement, tu as une enquête téléphonique qui on dit, bah, est-ce que tu es content, machin. Tu dis, bah, oui, je suis content, 4 sur 5, etc., etc. Sauf qu'en fait, on ne peut pas aller chercher l'excellence comme ça parce qu'on ne va pas suffisamment dans le détail. Avec l'analyse sémantique, le but, c'est d'aller traquer les petits trucs qui te font passer de satisfait à excellent. Un exemple, imaginons que t'appelles ton centre de contact, tu dises à la personne, bah voilà, je suis venu aujourd'hui, il y avait une promotion, mais je n'avais pas eu le code, etc. Est-ce que vous pouvez quand même me faire la promotion parce que c'est comme ça. Ben, l'agent dira, bah oui, pas de problème, je vous fais la promotion, je le mets tout de suite, voilà, c'est bon, vous pouvez commander. Là, en fait, la personne, elle raccroche, elle dira, bah ouais, le mec a fait son boulot, 4 sur 5, très bien, ou 4,5, ou 5 sur 5. Mais là, on n'aura pas l'excellence relationnelle. Parce que l'agent a fait son taf, mais elle n'a pas fait le petit truc qui va faire que la personne va avoir de l'émotion. Le petit truc qui va faire de l'émotion, c'est se dire, ah monsieur, ah, c'est vrai que normalement, cette promotion-là, elle est valable uniquement en magasin et c'est réservé aux clients qui viennent ce jour-là. Mais exceptionnellement, parce que je vois que vous êtes un client chez nous depuis 10 ans et que vous avez commandé d'autres produits, bah, moi, je vais faire un effort, je vous rajoute ce code de promo. Voilà, je vous envoie le lien et vous pouvez en profiter. La personne dit, ah ouais, voilà, c'est vachement sympa. La différence entre pas de problème et j'adapte un discours, ça, tu peux le faire uniquement si tu fais une analyse sémantique des conversations et tu vas repérer ces petits trucs-là qui vont faire la différence. Voilà. D'accord. L'autre point, là, parce que dans le grand public, bah, tout simplement, ouais, c'est le reposing des outils. Bah, là, tu vois, ce webinaire qu'on est en train de faire ensemble, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est le format un petit peu de vieux, de format 16/9, format long. Tu ne vas pas du tout intéresser les jeunes générations. Ça va pas être optimisé sur LinkedIn, donc tu ne vas pas de performance. Ce qui est intéressant de faire avec un outil comme PlusClip, c'est prendre cette vidéo de 45 minutes et tout simplement, tac, il va te découper en petites séquences très simples qui vont être vraiment les plus intéressantes selon le pitch, l'intérêt, blablabla. Et toi, en fait, tu vas les récupérer, tu peux ajouter du contenu en plus, ajouter du contenu en moins et tu vas avoir comme ça un résultat qui va être vraiment top parce que tu auras le bon conseil. Le petit truc en plus aussi avec OpusClip, c'est que ça complète l'IA générative. Vous l'avez dit tout à l'heure tous ensemble, si tu demandes à faire à ChatGPT, à Claude, à DeepSeek, n'importe qui, un résumé de cette conversation, il va te faire un truc, comme tu l'as dit Raphaël, pas très long, il va louper des trucs, ça va être un peu insipide. L'intérêt, c'est de prendre ce résumé-là, c'est ce que je fais moi maintenant, c'est que je prends ces résumés avec Claude ou ChatGPT ou DeepSeek. Ensuite, je prends OpusClip et je récupère en fait les moments qui sont intéressants. Et lui, il va vraiment me prendre ces moments clés. Il va faire une transcription et je modifie légèrement cette transcription. Et comme ça, ça me fait vraiment la valeur ajoutée que ne savent pas faire actuellement les résumés d'IA. Donc ça, c'est vraiment simple. Et dernier truc, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, ça va pouvoir ensuite publier ça sur les réseaux sociaux. En un clic, tu republies sur YouTube, tu retrouves sur TikTok, tu retrouves sur Instagram, sur LinkedIn, blablabla. Donc, ça fait gagner du temps. Alors, dernier truc aussi, là, c'est on est vraiment dans le pratico-pratique. Vous savez comme moi que faire des articles de blog, c'est bien, mais une image vaut 1000 mots. Avec Napkin, qui est une petite IA qui est pour l'instant gratos, eh ben, en fait, tu lui donnes en fait, un concept, tu lui donnes des étapes ou n'importe quoi, et il va te transformer ça en une jolie petite illustration avec différents modèles, un petit peu comme les Word Art ou les graphiques en fait, de Word. Oui. Mais automatique. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa et ça permet d'apporter un peu plus de visuel sur les contenus. Voilà.
Absolument. Juste une petite précision, une question ou une remarque d'ailleurs qui était proposée par Michael Tartar qui nous suit. Il nous a parlé de notebook LM là pour transformer le contraire des livres blancs en podcast, donc après on peut aller plus loin. Une fois qu'on a le livre blanc, on peut en faire un podcast. Alors pour l'instant, c'est uniquement disponible en anglais, mais c'est
non, en fait, c'est alors ça. Alors, notre bouquet LM, c'était dispo en français anglais, c'est revenu en anglais, et depuis 2 semaines, c'est revenu en français. Sauf qu'il faut que tu dises dans la personnalisation, tu lui dis parle-moi en français, pas d'accent québécois, parce qu'autrement, il a une tendance à te parler un peu québécois. Et ça marche. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait. Comme les fameux livres blancs dont tu as parlé, Raphaël. Tu prends le livre blanc, tu le transformes en podcast et sincèrement, ça fait le job. En plus, c'est des voix assez naturelles. Je trouve, j'aime bien la discussion.
Moi je trouvais que c'était super. C'était super. Je juste trouvais que c'était un peu bavard. Parce qu'un livre blanc d'une 25 pages, ça fait un podcast de 2 heures. J'ai trouvé que c'était un peu bavard. Mais après, bon, on ne peut pas tout avoir.
Bah après, moi, j'ai mis 300 pages. Il m'a fait 20 minutes. Donc, 20 minutes pour résumer 300 pages, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est… Il y a d'autres choses intéressantes. Mais c'est un petit truc. Après, je trouve que c'est aussi un peu compliqué parce que ça manque de saveur, ça manque d'humain.
Ok, je vais juste vous reparler de quelque chose que vous savez. Agen, évidemment, vous connaissez la techno pour traduire simultanément en je sais même pas combien de langues, j'ai même pas vérifié des vidéos en termes de reach pour le développement international. C'est quelque chose qui est super bluffant. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Agen, parce qu'il faut regarder ça bouge quasiment tous les jours, c'est le concept du jumeau numérique qui peut vous remplacer dans certains cas de figure. Un jumeau numérique qui peut me mettre en mouvement. On croit qu'on marche dans un couloir, mais en fait c'est pas soi-même, c'est son jumeau numérique. C'est vraiment super bluffant. Et la petite chose que je voulais dire par rapport à Agen, c'est qu'on a une solution française qui s'appelle Lipit, qui a été développée notamment, dont le CEO est un jeune qui s'appelle Antoine Ménager. C'est vraiment intéressant, c'est une bonne alternative à Agen. Je ne suis pas sûr que ce soit encore aussi puissant que Agen, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder quand même. Si effectivement vous posez des questions d'utilisation de la vidéo, de traduction, que ce soit simultané ou en mode asynchrone, de contenu, de webinaire, de choses comme ça, dans d'autres langues, ça peut être vraiment, vraiment intéressant à regarder. Juste un petit tour de table avant que je donne la parole à Sylvain, qu'est-ce que ça vous inspire les partages de bonnes pratiques et d'outils que vient de faire Fred, ça vous parle? Pas plus que ça, on passe directement à Sylvain. Ouais, bah alors écoutez, dans ce cas, Sylvain.
Non, attends, Sylvain, excuse-moi. Moi, en revanche, oui. Je découvre Napkin. Je vais l'utiliser tout de suite, effectivement, parce que ça se connecte bien au livre blanc, oui.
Ouais, complètement. Absolument. Ok, Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as commencé à apporter certains bémols par rapport à l'usage, l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous en guise de conclusion à cette table ronde digitale?
Alors, peut-être déjà en préambule par rapport à cette image-là, je vous laisse deviner un peu le... mon hack ultime, essentiel, crucial à utiliser avec les IA génératives. Pour moi, ça reste vraiment l'intelligence humaine. Ouais. Comme un centaure, vraiment, l'intelligence doit rester humaine. C'est vraiment l'impératif. Par contre, l'IA doit nous permettre, comme pour un centaure, peut-être d'aller plus loin et plus vite. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est qu'elle va pouvoir augmenter nos compétences, notre expertise, nos compétences. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment rester dans notre périmètre d'expertise. Aujourd'hui, si on l'interroge en dehors de ce périmètre-là, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable de l'orienter vers la bonne direction en lui posant les bonnes questions. Et surtout, on ne sera pas capable d'identifier et de la corriger quand elle se trompe. Et malheureusement, aujourd'hui, elle se trompe énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, il faut vraiment être conscient de ça, parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de dérives sur les réseaux sociaux, sur Internet, où on a de plus en plus de contenus qui sont complètement fades, qui sont générés automatiquement et qui contiennent malheureusement énormément d'erreurs. Mais si on l'utilise vraiment pour nous augmenter ou pour nous enrichir, là, on en tire vraiment tous les bénéfices, quoi. Par exemple, je donne souvent l'exemple, si aujourd'hui, je vais écrire un article sur comment l'informatique quantique va impacter l'intelligence artificielle, ChatGPT va certainement me générer un texte qui sera certainement crédible avec le bon vocabulaire. Par contre, si je le donne à un expert de l'informatique quantique, très rapidement, il va penser que je suis un idiot. Pourquoi ? Parce que mon texte, il sera approximatif, il y aura plein d'erreurs, truffé d'erreurs, et puis surtout, il sera sans intérêt. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point important. Le prompt ne fait pas expert. Pas plus que l'habit ne fait le moine. Et je peux être un idiot, mais même avec l'IA, je vais rester un idiot, quoi, en tant que tel. Et surtout, le plus important, j'engage ma responsabilité. Quand je publie un contenu, j'engage la responsabilité. Ma responsabilité personnelle et peut-être aussi la responsabilité de mon entreprise. Donc, ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est important d'avoir cette notion-là de valeur. Quelle valeur je veux donner? Et aujourd'hui, dans la communication, dans le marketing, on est énormément dans du quantitatif. Je dois publier tout le temps. Tout le temps pour plaire à des algorithmes. Et on oublie la notion de qualitatif et surtout de plaire à qui? À des humains. Ça reste des humains qui vont nous acheter notre produit. C'est des humains qui vont acheter notre service. Donc oui, c'est important d'être bien référencé pour être vu, mais derrière, de ne pas oublier cet aspect-là qui est je dois séduire des humains. Et aujourd'hui, j'ai un bruit de fond, excusez-moi. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de professionnels dans le marketing qui résument leur métier à bien utiliser les bons outils. Et si c'est vraiment le cas, on a vraiment des soucis à se faire. Parce qu'aujourd'hui et certainement demain, les IA génératives sauront mieux le faire que nous. Ils ne seront jamais fatigués, ils ne râlent jamais. Donc, si on résume notre métier de marketeur et de communicant à savoir utiliser les bons outils, ça va être inquiétant. Par contre, l'IA générative peut nous aider. Il peut nous aider sur plein de tâches. Donc, moi, un des parties que j'ai au tout départ quand l'IA générative est arrivée, hein, c'est de regarder comment elle pouvait m'aider dans chacune de mes tâches de mon métier. Et à la fin, de me dire où moi, en tant qu'humain, en tant que professionnel, je souhaite mettre le curseur. Ce n'est pas parce qu'une chose est techniquement possible qu'elle est souhaitable. Elle est souhaitable pour moi, voire peut-être. Donc, il y a des tâches que moi, je veux absolument garder précieusement pour mes neurones et que je ne souhaite surtout pas déléguer aux intelligences artificielles. Donc, moi, j'ai pris le parti pris de plutôt que collectionner une multitude d'outils IA, parce qu'il y en a des dizaines qui arrivent chaque semaine, j'en ai choisi quelques-uns. J'ai choisi les meilleurs, donc j'ai écouté les experts qui me disaient ChatGPT aujourd'hui, ça reste le meilleur. Même s'il y en a d'autres qui font si bien, ça reste le plus compétent, le plus efficace. Et j'ai regardé comment je pouvais vraiment le personnaliser au maximum et bien l'utiliser pour qu'il s'adapte à ma façon de travailler.
D'accord.
Par exemple, sur ChatGPT, il y a trois avantages. Par exemple, vous pouvez utiliser les customer instructions. Donc, à l'origine, sur toutes vos demandes, vous pouvez lui dire qui vous êtes. Quelle est votre entreprise? Quel est votre service? Vos produits? Quels sont vos points forts? Quels sont vos concurrents? Quels sont vos points faibles? Et à chaque fois que vous allez faire un prompt, il va se baser sur ces informations-là qu'il a à la base. Deux choses que j'utilise beaucoup, moi, par exemple, dans ChatGPT, ce sont les GPTs. Donc, c'est la possibilité de créer des GPTs pour des micro-tâches. Par exemple, j'ai un GPT qui va m'aider sur l'écriture de mes posts. Alors, ce n'est pas lui qui me les écrit. Par contre, je lui ai donné l'ensemble de mes posts pour qu'il se capte sur ma façon d'écrire. Et donc, je lui donne mes idées. Et à partir de là, il me donne une trame. Une autre façon que j'utilisais GPT, par exemple, j'ai créé plein de personas. Donc, moi, je donne des cours aussi bien pour des entreprises, pour des marketeurs expérimentés, comme pour des étudiants. Et ce persona permet d'adapter à mon audience ma formation. Et là, je trouve que ça amène une vraie valeur ajoutée.
Intéressant.
Et ensuite, par exemple, avec ChatGPT, l'IA générative, globalement, pour être vraiment le plus efficace avec elle, il y a plein d'études qui ont montré que c'était l'arbre de pensée qui permet d'utiliser tout le potentiel de cette technologie. C'est quoi l'arbre de pensée? C'est qu'en tant que professionnel, dès qu'on a un problème, souvent, on va vers la solution qu'on connaît, la solution qu'on maîtrise. Et ça, c'est humain. Moi, le premier, je le fais. Quand vous utilisez l'arbre de pensée, vous partez du principe « je sais que je ne sais pas ». Donc, au départ, première chose que vous allez faire avec l'IA, ça va être d'explorer toutes les solutions possibles qui peuvent répondre à votre problème. Donc, vous allez mettre vos solutions à vous. Vous allez demander à l'IA de compléter les autres solutions que peut-être que vous n'aviez pas dans l'esprit. C'est ce que j'appelle, moi, la largeur des solutions. Et après, vous allez utiliser l'IA pour rentrer dans chaque solution, explorer la profondeur. Pour voir l'efficacité, la faisabilité d'utiliser chacune de ces décisions. Et à la fin, vous allez sélectionner, peut-être même fusionner certaines solutions pour pouvoir répondre à votre problème.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment cette approche-là qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle les raisonnements qu'on peut retrouver dans certaines IA comme O1 ou O3. Ça part de ce principe-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment une approche qui est très intéressante et qui résume l'approche Chantor.
Super.
que je défends.
C'est intéressant.
Où vous contrôlez chacune de vos protections et vous validez chacune de ces étapes-là. C'est-à-dire, vous gardez la main sur tout ce que fait l'IA générative.
Ok, je vois qu'il est, il est 13h, 30 secondes, petit tour de table pour un mot de conclusion sur notre. Sur nos échanges de ce jour, évidemment, sur le sujet, on passait la journée, on est obligé forcément de se limiter parce que tout le monde a d'autres choses à faire également. Xavier, qu'est-ce que tu dirais en conclusion rapidement par rapport à tout ce qu'on a pu échanger aujourd'hui ?
Eh bien, moi, ce que je retiens, c'est que on manque pas de solutions. Et merci vraiment pour les partages, des petites astuces. J'ai aussi découvert, là, Frédéric, des petits outils intéressants. Ce qui peut manquer peut-être, c'est que, et ça, je m'avais appuyé sur le discours du centaure, c'est que là, pour l'instant, on est dans une optimisation individuelle de l'IA. Hein. Tu as dit, je vais me composer mes GPTs pour moi, etc. Je veux garder mon expertise. Moi, je pense que l'avenir et là où il faut qu'on progresse, c'est de pouvoir utiliser des outils collectivement, donc de transmettre notre savoir-faire dans un cadre qui va faire travailler l'IA tel qu'on veut le faire en équipe. Et pas garder cette expertise pour soi. C'est vrai que pour l'instant, moi, la frustration que j'ai, c'est chacun optimise son propre mini-écosystème. Ce qu'on essaye de faire avec, en tout cas d'imaginer avec une plateforme comme Zenvaya, c'est traduire ces optimisations individuelles en des outils qui pourraient être utilisés par plus de monde, par les équipes. Et qu'on n'ait pas tous besoin d'être un super expert pour pouvoir utiliser l'IA, même si tu l'as effectivement pour pouvoir la. Il faut à un moment donné qu'il y ait des experts qui nous aident à la contrôler. Mais derrière, l'idée, si on veut faire accéder à tout le monde, c'est de transmettre cette expertise pour les autres. Quoi. Et ça, je pense que ça reste encore un gros
ouais. Ce qui est des outils qui ont été évoqués, etc., que certains ont découvert même parmi les participants, on les partagera. Certains ont déjà été partagés dans les conversations. On fera un petit contenu qu'on mettra à disposition, qu'on vous poussera. Donc, ne vous inquiétez pas. Raphaël ?
Moi, j'ai peut-être deux choses. Oui. J'ai juste peut-être deux choses à rappeler, même si ce ne sont pas des exclusivités. Faites attention à vos données et privilégiez les outils. Et ce n'est pas facile, plutôt souverain ou open source. Hein. On a vu les discours, les problèmes en fait, que ça pouvait poser des Américains avec Trump ou des Chinois avec. Et d'autre part, intéressez-vous effectivement, c'est ce que disait Xavier, ce à quoi faisait référence Xavier, à la partie un peu immergée de l'iceberg. En fait, toutes les applications en fait, qui sont développées par les boîtes et dont on n'entend pas forcément parler sur LinkedIn, mais qui permettent souvent de faire du plus personnalisé et vraiment d'automatiser en partie au moins certains processus marketing. Et ça, forcément, il faut chercher un petit peu pour avoir accès à ça, mais il y a des choses qui bougent pas mal.
Super. Fred ?
Alors, moi, je dirais trois choses. La première, lancez-vous. C'est important parce qu'en fait, on voit bien que l'IA, tout le monde en parle, mais finalement, ce n'est pas encore rentré dans le quotidien. Et lié à ça, la deuxième chose, c'est pour moi, la vraie révolution se fera quand ça sera dans les outils natifs. Parce que pour l'instant, il faut avoir le réflexe d'aller sur ChatGPT, etc. Il y a pas mal de gens qui ont testé et il n'y a que des experts comme ceux qui nous écoutent, je pense, et ceux qui sont là ici présents, qui ont vraiment pris ce pli-là. Donc, il faut vraiment prendre l'idée de réfléchir différemment maintenant avec l'IA parce qu'on dit toujours que ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, mais c'est les gens qui utilisent bien l'IA qui vont vous remplacer vous. Et le troisième point, attention quand même avec l'IA. Nous, chez Eloquent, on est vraiment une optique RSE. Et moi, j'ai sorti un bouquin sur le marketing des consommations. J'ai attention quand même à ne pas utiliser l'IA à toutes les sauces pour tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même un coût énergétique, un coût écologique qui est quand même très fort. Donc, utilisez-le là où il a de la valeur ajoutée. Parfois, il n'y a pas besoin d'IA. On peut faire des choses beaucoup plus simples sans IA. Donc attention au coût écologique et économique. Et c'est vrai que on critique, c'est vrai, les Chinois, et c'est vrai que j'ai testé DeepSeek, hein, c'est la censure. Quelque part, il faut aller sur une IA qui soit plus respectueuse, moins consommatrice. Et ça, il y a vraiment un gros, gros effort à faire. Et je pense que la France doit travailler sur deux choses. Comme tu l'as dit, Mistral, c'est un bon modèle français sur les données françaises. Donc, bien sûr, essayer de se protéger avec la protection des données, etc. Et la deuxième chose, travailler sur la consommation écologique et énergétique. Et c'est, je pense, le gros défi à venir parce que pour l'instant, on ne paye pas le prix, le vrai prix de l'IA. Et quand on va devoir le payer, ça va être autre chose, quoi.
C'est clair, c'est clair. Et c'est un discours auquel chez Techatique, on est quand même particulièrement sensible, que ce soit d'un point de vue de la consommation, que d'un point de vue de faire appel à des solutions souveraines. Voilà, on va clôturer cette table ronde aujourd'hui. Un grand merci à nos quatre experts. Merci aux participants. J'ai vu qu'on était quand même assez nombreux. On va faire un petit compte-rendu, une petite synthèse de ce qu'on a dit. On repartagera des liens vers certains outils de nos participants, mais de ceux qui ont été évoqués par les intervenants. Voilà, donc rendez-vous la prochaine fois sur l'IA et les processus et le travail collaboratif. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire également là-dessus, et également sur le mois de mars également, on va en faire une sur l'IA et tous les processus de développement commercial, que ce soit acquisition ou fidélisation. Alors, il y aura une petite passerelle avec le marketing, mais il y aura encore pas mal de choses à dire. Voilà, merci encore, à très bientôt, et puis bon appétit, c'est pas trop tard pour vous souhaiter. Allez, à bientôt, au revoir à toutes et tous.
Au revoir.
Merci, bye bye. Merci, au revoir. Ciao.